L'histoire des féministes par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04, et c'est notre dernier épisode aujourd'hui. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. Eh bien oui, c'est la 14e émission et c'est donc le dernier épisode de l'histoire des féministes de la deuxième vague. À la bataille gagnée de la contraception et de l'avortement, succède pour les féministes de la fin de la deuxième vague une autre bataille, moins spectaculaire, mais tout aussi ardue en raison de la forte misogynie ambiante, celle de la plus forte participation des femmes à la vie publique, à la vie politique. La bataille pour l'accès à 50% au pouvoir exécutif, c'est-à-dire aux fonctions ministérielles, et au pouvoir législatif, à savoir la place des femmes dans les assemblées d'élus, l'Assemblée nationale, mais aussi les assemblées régionales, départementales et communales, les mairies. Tout d'abord, l'accès au pouvoir exécutif. Cela commence en 1974 avec la présidence de la République de Valéry Giscard d'Estaing sous l'influence indéniable du mouvement pour la libération des femmes, le MLF. Lui qui veut moderniser la vie politique française est persuadé que cette modernisation passe par l'accès des femmes au gouvernement. Rappelons qu'un gouvernement est composé de ministres nommés et non pas élus. Le monopole masculin en la matière est à ses yeux un archaïsme et il veut s'en démarquer. Pour lui, la vague féministe qui a déferlé est le symptôme d'un changement de société. Il ouvre donc aux femmes le cercle gouvernemental. Le gouvernement du 27 mai 1974 compte 4 femmes, dont une ministre de plein exercice, Simone Veil, ministre de la Santé, et Françoise Giroud est à la tête d'une nouvelle structure, le secrétariat d'État à la condition féminine. Le septennat giscardien, à l'époque le président de la République est élu pour 7 ans et non 5 comme aujourd'hui, est marqué par des réformes législatives importantes touchant aux droits des femmes, comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents. Contraception gratuite, création de l'IVG, mais aussi divorce par consentement mutuel, dépénalisation de l'adultère, tous ces projets de loi progressistes, votés ensuite par les assemblées d'élus en faveur des femmes, ont été défendus par des femmes ministres. Le président suivant, François Mitterrand, élu président de la République en 1981, poursuit en l'amplifiant la féminisation du pouvoir gouvernemental républicain. Sur 42 membres du gouvernement, il y a 6 femmes. Cela peut paraître dérisoire aujourd'hui, mais c'était un progrès. Il y a donc 6 femmes. Et la grande innovation est la création d'un grand ministère des droits de la femme. On disait de la femme et non pas des femmes à l'époque. Un ministère qui sera dirigé par Yvette Roudy, R-O-U-D-Y, pendant 5 ans, de mai 1981 à mars 1986. Le 8 mars 1982, le chef de l'État commémore pour la première fois en France, officiellement, la Journée internationale des droits des femmes. 8 mars, date que les féministes du monde entier ont choisie pour illustrer leur combat. Voici des extraits de son allocution prononcée le 8 mars 1982 au Palais de l'Élysée à Paris. Elle est construite autour de 3 mots: autonomie, égalité, dignité. Je cite: exigence d'autonomie. L'autonomie de la femme, c'est d'abord dans notre société l'autonomie économique. Elle se concrétise, dans la plus grande majorité des cas, par l'exercice ou par l'acquisition des moyens de l'exercice d'une activité professionnelle. Exigence d'égalité. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, les droits égaux à ceux de l'homme. Ce principe figure, vous le savez sans doute, dans le préambule de notre Constitution. Il reste encore, là comme ailleurs, à faire entrer cette définition dans les faits. L'égalité dans la vie professionnelle, c'est l'égalité devant l'emploi, je l'ai dit, mais aussi dans les salaires, les conditions de travail, les possibilités de promotion. L'exemple montre qu'il y a un certain barrage devant les femmes à égalité de titres et de capacités lorsqu'il s'agit de promotion. Là, je fais une parenthèse, barrage, c'est un euphémisme pour dire qu'il y a de véritables obstacles, bien sûr. Donc, je reprends la citation. Dans le secteur privé, chacun sait qu'il existe, depuis 1972, une loi posant le principe « à travail égal, salaire égal » pour les hommes et pour les femmes. Qui dira que cette loi est respectée ? Pas moi, en tout cas. Sur le plan de la législation, il s'agira de faire voter d'ici la fin de l'année, en conformité avec la directive européenne sur l'égalité de traitement, une loi plus complète et plus précise qui visera à donner aux femmes et à leurs organisations les moyens de faire respecter l'égalité dans tous les aspects de la vie. Exigence de dignité. Elle prête parfois à sourire et l'objet de bien des sarcasmes. Elle est pourtant celle que les femmes ressentent le plus profondément, par exemple jusqu'à ne plus tolérer que l'on propage d'elles depuis le livre scolaire, parfois jusqu'au mur de nos villes, une image tronquée. Là, je fais également une parenthèse, c'est une image idéalisée selon les fantasmes masculins et même dégradante souvent. Donc je reprends la citation. Comme si elles n'étaient que des auxiliaires domestiques ou un simple objet de désir, sorte de marchandise. Nous nous sommes dotés dans notre pays d'une loi antiraciste. Pourquoi n'y aurait-il pas une loi, et cela sera proposé, antisexiste ? Cette proposition de loi ou ce projet de loi verra le jour. Exigence d'autonomie, exigence d'égalité, exigence de dignité, voilà un projet ambitieux, conclut le chef de l'État. Il est donc confié, avec mission de le concrétiser, à Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme. Elle se lance avec enthousiasme dans la rédaction d'un projet de loi antisexiste qui lui vaut aussitôt d'être accusée d'intolérance et surnommée l'Ayatollah. Le lobby des agences de publicité crie à l'atteinte aux droits de création et à la liberté d'expression, c'est-à-dire en fait au droit de montrer librement et impunément le corps dénudé des femmes, non seulement dans les publicités de sous-vêtements féminins, mais aussi dans les publicités des automobiles ou des appareils ménagers, sans parler des hebdomadaires destinés aux hommes. Le texte est vidé de sa substance, cette loi ne verra pas le jour. Yvette Roudy ne se décourage pas et fait adopter d'importantes mesures législatives en faveur des femmes dans plusieurs domaines cités dans l'allocution du chef de l'État, en particulier le domaine de l'égalité professionnelle. La loi dite « loi Roudy » du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle interdit de refuser une embauche, une promotion ou une formation en raison du sexe. Elle oblige les branches professionnelles et les entreprises à effectuer un bilan de leur situation en matière d'égalité. C'est une deuxième loi sur ce sujet après celle de 1972, mais une loi fondamentale. Deuxième d'une longue série comportant pas moins de 7 lois pour faire se réaliser et étendre à tous les niveaux l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur le marché du travail en 2001, 2006, 2011, 2012, la dernière en date étant la loi du 4 août 2014, dont le projet a été présenté par la ministre des Droits des Femmes de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, en janvier de cette même année. Elle s'intitule « Loi numéro 2014-873 du 4 août 2014 » pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Elle renforce notamment, car elle vise d'autres aspects de la vie des femmes, les dispositions pour l'égalité professionnelle. Autre progrès, le régime matrimonial où la notion de chef de famille est supprimée dans le droit fiscal, le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale, c'est une loi du 31 décembre 1982 qui a provoqué des débats houleux à l'Assemblée nationale, la réforme du statut des conjointes d'artisans, l'obligation de versement des pensions alimentaires, etc. Elle mène par ailleurs, Yvette Roudy, de vastes campagnes de communication sur la contraception, les carrières professionnelles et l'égalité des chances. En tant que ministre des droits de la femme, Yvette Roudy, comme celles qui l'ont précédée, devient concomitamment, automatiquement, présidente d'une association nationale spécifiquement dédiée aux femmes, le Centre d'information féminin et familial, le CIF-F, créé en 1976 à partir d'une première structure appelée CIF, Centre d'information féminin, créé dès 1972. Sous son impulsion, ce centre devient le CNIDF, Centre national d'information sur le droit des femmes. De nombreux centres d'information départementaux voient le jour en province. Parallèlement, un réseau national de délégués régionales et de chargés de mission départementales auprès des préfets est créé. Ce lien très fort entre l'État et le CNIDF et les CIDF est la marque du développement de ce que l'on peut appeler alors un féminisme institutionnel ou féminisme d'État, notamment du fait que ces CIDF sont financés par l'État sous forme de subventions, bien que fonctionnant sur le mode associatif. Aujourd'hui, il s'appelle CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et de la famille, et il y en a au moins un dans chaque département. Ils sont dirigés maintenant par des professionnels formés et administrés par un conseil d'administration composé de bénévoles. Leur mission initiale est l'information juridique gratuite en cas de divorce, notamment, l'information professionnelle et un secteur famille, maternité, sexualité. Sous la présidence d'Yvette Roudy, l'action des CIDF se développe dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Beaucoup de CIDFF ont maintenant, en plus, l'accueil en charge, l'accueil gratuit des femmes victimes de violences masculines conjugales. En 1986, Jacques Chirac, Premier ministre, supprime le poste de Yvette Roudy et le remplace par un simple secrétariat d'État à la condition féminine, avec à sa tête Michel Barzac. Eh bien, nous sommes arrivés au point de la pause musicale, je pense, Odile, et nous écoutons une jolie chanson qui s'appelle « Trois petites notes de musique » interprétée par Yves Montand.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime chanter la rengaine, la mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir.
Et voilà, après cette belle page musicale, Jacqueline.
Et bien après cette jolie chanson, dans cette deuxième et dernière partie de ce dernier épisode, voyons l'accès des femmes au pouvoir législatif. Comment elles y sont parvenues, pas encore complètement d'ailleurs aujourd'hui. Si elles gagnent en puissance au sein de l'exécutif, les femmes sont cependant, dans les années 70, 80 et début 90, toujours quasiment exclues du Parlement des élus nationaux, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. De 1978 à 1993, leur part dans l'Assemblée nationale passe de 4% en 1978 à 6% 15 ans plus tard. Au cours de la décennie 1980, le pourcentage des sénatrices oscille entre 2 et 3%. Total décalage femmes-hommes, totale injustice. À l'aube des années 90, on constate que tous les partis politiques, de gauche comme de droite, refusent de faire aux femmes la place qui leur revient légitimement, car dans la population française, elles sont majoritaires. Or, les femmes sont vues par les hommes politiques comme des intruses, des rivales qui veulent prendre leur place, diminuer leur pouvoir. La violence de leur misogynie est d'ailleurs révélée par une enquête menée en 1988 auprès de femmes exerçant des responsabilités importantes. C'est pourquoi les militantes féministes bataillent dans le milieu des années 1970 pour l'établissement de quotas de représentation dans les partis. À l'initiative de Gisèle Halimi, l'Assemblée nationale vote à la loi municipale de 1982 un amendement qui limite à 75% la part de candidats de même sexe, c'est-à-dire les hommes en fait, sur les listes municipales pour les villes de 3500 habitantes et habitants et plus. Saisie par des députés dépité, le Conseil constitutionnel se prononce le 18 novembre 1982 contre ce quota légal, au nom de l'universalisme républicain, égalitaire, donc neutre. Un quota, c'est un nombre minimum requis. C'est une mesure de discrimination, en effet, mais de discrimination positive, qui vise à établir une égalité ou une mixité sociale. Une mesure contraignante, car, comme le dit la philosophe Geneviève Fraisse, on ne peut produire de l'égalité sans contrainte. Un quota, ce serait donc un moyen pour parvenir à l'égalité parfaite. Et l'égalité parfaite, en politique, cela s'appelle la parité entre les sexes. Cette décision du Conseil constitutionnel laisse donc perdurer l'ordre masculin privilégié traditionnel, victorieux, mais il provoque un véritable électrochoc chez les femmes intellectuelles et militantes, scandalisées au sein des partis politiques notamment. En 1992, le livre de Françoise Gaspard, G-A-S-P-A-R-D, qui s'appelle « Au pouvoir citoyenne, liberté, égalité, parité », édition du Seuil, lance publiquement le slogan de « parité », repris par des associations féminines et féministes. Le projet de parité les remobilise dans un climat de creux des mobilisations féministes. Voici la définition du mot parité selon les expertes. c'est un principe d'organisation sociale selon lequel la représentation des hommes et des femmes doit être numériquement équivalente dans les assemblées élues en ce qui concerne la politique. Ce sera donc la bataille de cette fin de la deuxième vague des féministes. Elle ne sera pas portée par un mouvement de masse populaire comme celui pour l'avortement, mais par des femmes d'une certaine classe sociale qui, sans toujours se dire ouvertement féministes, le sont, car elles profitent des positions acquises, ministres, élus, syndicalistes, personnalités politiques, personnalités universitaires, pour faire avancer la cause des femmes. Et cette cause s'incarne dans cette bataille pour la parité. Pendant les années 1990, elles organisent des manifestations devant le Parlement, lancent des pétitions, tiennent des colloques, sans toutefois rencontrer la foule populaire. Cependant, malgré cette faiblesse numérique, elles obtiennent des avancées notables à l'intérieur même de l'État, comme la création en 1995 de l'Observatoire de la parité, ancêtre de ce que nous appelons aujourd'hui le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, le HCE. Sans avoir le même retentissement que le manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté illégalement le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur, un manifeste pour la parité est publié dans l'hebdomadaire L'Express le 6 juin 1996. Il est lancé et signé par 10 femmes, ministres ou anciennes ministres, de gauche et de droite. Yvette Roudy, Simone Veil, Edith Cresson, la première femme première ministre, entre autres. Voici un extrait de ce manifeste. Je le cite. « Toutes, à un degré ou à un autre, nous avons eu à affronter l'incapacité du système politique à accepter véritablement les femmes, de l'indifférence condescendante et du mépris à l'hostilité déclarée, nous avons pu mesurer le fossé séparant les principes affichés de la réalité s'exprimant dans le comportement de la classe politique. Oui, décidément, celle-ci a encore du mal à tolérer que les femmes participent avec des responsabilités réelles à la direction des affaires du pays. » Tout ceci aboutit à la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, qui ajoute à la Constitution un amendement affirmant que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Enfin, la loi numéro 2493 du 6 juin 2000, dite loi sur la parité, bien que le terme soit soigneusement évité, contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes pour les élections municipales, régionales, sénatoriales et européennes. Cette disposition est coercitive, c'est-à-dire contraignante, puisque les listes qui ne respectent pas la parité ne sont pas enregistrées. Cependant, elle ne concerne ni les élections cantonales, ni les municipales des villes de moins de 3500 habitants et habitantes. De plus, pour les élections législatives, donc les élections des députés à l'Assemblée nationale, le système n'est qu'incitatif. Les partis qui ne présentent pas 50% de candidates se voient appliquer une retenue financière, une amende. On a vu alors certains partis politiques les plus riches préférant payer cette amende plutôt que de présenter 50% de candidates. Les hommes ont plus d'un tour dans leur sac pour barrer la route aux femmes. Comme en ce qui concerne l'égalité professionnelle, nous avons donc un véritable arsenal de lois depuis des années. La grande difficulté, c'est leur application dans les faits, comme le disait le président Mitterrand en 1982. Comme le disait aussi Yvette Roudy lors des États généraux de l'égalité organisés le 12 septembre 2013 au Conseil économique, social et environnemental, je la cite, « Il faut des lois et il faut les faire appliquer. C'est par la volonté politique que l'on pourra faire appliquer et faire avancer les lois existantes. » Aux élections législatives de 2022, la parité n'est toujours pas atteinte. 37,3% de femmes députées il y en avait 38,6% en 2017, soit 224 femmes sur 577 députés. La majorité des femmes maires dirigent plus souvent des petites communes que des grandes, à quelques exceptions près, notamment Paris. Mais il faut poursuivre, rien n'est fini. Donc la réforme paritaire entamée en 1999 a produit une onde de choc positive pour les femmes. Dans les assemblées élues à la proportionnelle, la parité obligatoire a entraîné des résultats spectaculaires en termes d'égalité, y compris parmi les exécutifs locaux. Elles peuvent être vice-présidentes de conseils régionaux ou adjointes au maire. Mais comme je le disais, rien n'est jamais fini pour les femmes. Il faut poursuivre le combat. Et pour ça, il faut lire le livre de Pascal Pic, P-I-C-Q, paléo-anthropologue, un livre intitulé « Comment la modernité ostracisa les femmes, histoire d'un combat anthropologique sans fin », édition Odile Jacob, 2022. Alors, en conclusion, je dirais, c'est la fin de cette troisième partie, les féministes de la deuxième vague, les années 1960, 1970, 1980. Dans mon introduction, en octobre 2023, j'avais prévu une quatrième et une cinquième partie, mais il est nécessaire maintenant de faire une pause. Pour rappel, la quatrième partie est celle des féministes de la troisième vague, fin XXe siècle, années 90 et début XXIe siècle. Elles ont braqué le projecteur, notamment sur l'effet du cumul des discriminations de genre et de classe sociale, autrement dit, ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Certaines femmes, en effet, sont doublement ou triplement opprimées. Ainsi, on peut trouver fondue en une seule personne la discrimination de classe sociale, la discrimination sexiste, la discrimination raciste. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Enfin, la cinquième et dernière partie devait s'apesantir sur le féminisme contemporain du premier quart de ce XXIe siècle. L'action des jeunes féministes de la quatrième vague, qui, elles, utilisent des outils nouveaux de communication, les réseaux sociaux, mais aussi les livres autobiographiques, et pratiquent un militantisme de protestation et de défense. Elles sont axées sur la dénonciation des violences masculines de toutes sortes faites aux femmes. Les violences dites conjugales et intrafamiliales, les homicides, l'inceste évidemment, mais aussi le harcèlement sexuel et sexiste à l'école, au travail, dans les lieux publics, les lieux de loisirs, les mutilations génitales, les viols, les agressions sexuelles. Ce qu'elles appellent les VHSS. Si vous entendez ce mot, cette abréviation VHSS, cela veut dire violence et harcèlement sexiste et sexuel. Mais là, il ne s'agit plus d'histoire ancienne, mais de féminisme contemporain à présenter, il me semble, par ses actrices actuelles, plutôt que par moi-même. Voilà, c'est la fin de ce dernier épisode, Odile.
Merci beaucoup, Jacqueline, pour toutes ces informations absolument nécessaires. On vous reverra certainement quand même sur notre antenne pour peut-être d'autres projets. En tout cas, merci pour ces épisodes, 14 épisodes, c'est ça, hein, sur l'histoire des féministes. Oui. 14 épisodes d'une demi-heure qu'on retrouve sur notre site www.fréquencemistral.com dans notre onglet de Digne-les-Bains, nos émissions. Vous aviez envie de parler peut-être de la mise en place d'un nouveau banc rouge, ces bancs qui servent à symboliquement à montrer les féminicides.
Oui, je voulais signaler que ce samedi 7 décembre à 11h, au village des Mets, il y aura une inauguration d'un banc rouge, donc avec bien sûr Monsieur le maire, les conseillères et conseillers municipaux, et puis tout le public et moi-même. Voilà.
Merci, au revoir.
Au revoir à toutes et à tous.